Alors, eh bien, c'est maintenant le tour de la chronique de François sur Puppetland.
Voilà, donc là, on commence à y avoir comme une espèce de schéma. C'est ma troisième intervention. La première fois, j'ai parlé d'un jeu des années 90. La fois suivante, j'ai parlé d'un jeu récent. Bah là, on revient dans les années 90 et la prochaine fois, je parlerai d'un jeu récent.
Bien. Donc,
c'est un schéma narratif.
Et par pur teasing, ce sera quoi le prochain ?
Je pense que ça sera Wild, le jeu pour faire des armes dieux qui a été kickstarté par John Wicks, je crois.
Ouais. D'accord. Oui, c'est ça. Ok, très bien.
Mais j'attends, en fait, j'ai pas voulu le faire pour cette fois-ci parce que j'attends que le supplément qui va avec soit publié parce que je voudrais parler du jeu dans son ensemble, c'est-à-dire avec le contenu du compagnon. En fait.
Très bien.
Donc voilà.
Donc dans 3 ans, parce qu'un Kickstarter en général.
Franchement,
ça n'arrive pas bien vite.
Le financement s'est terminé.
En 2010.
Non. Le financement s'est terminé fin juin. Et la version PDF du jeu, moi je l'ai depuis 2-3 semaines. 2 semaines. Non, ça, pour le jeu lui-même est sorti super vite. Le compagnon est censé arriver assez rapidement aussi.
Mais il faisait partie du même Kickstarter. C'est pas un autre Kickstarter.
C'était
c'est un des bonus en fait du Kickstarter.
Exactement.
Ouais, ça met quelques mois à arriver derrière ça. Sauf si t'as 95 personnes qui contribuent au supplément.
Non, là c'est vraiment juste l'auteur et sa femme, je crois. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Arrêtez d'essayer de m'embrouiller.
Donc je fais pas la musique. Allez, on fait pas de musique de Muppet Show.
Non, Calisto.
Donc Puppetland est un jeu de John Tynes qui a été publié en ligne en 1995.
Non, pas en 2095 parce que
exactement.
Voilà.
Et qui a connu une édition papier chez Hogsack Publishing en 99. C'est l'édition papier en question qui me sert de support pour cette chronique, vu qu'elle contient quelques pages de plus que la version HTML disponible en ligne. Donc voilà, le document est un...
Il y a également une version en français qui est toujours, je pense, disponible sur le site de Rapar.
Elle est toujours, je l'ai re-regardée.
Donc c'est bastion...
C'est le domaine de Saladin.
On s'en fout, on mettra un lien.
Ouais, voilà, domaine de Saladin, tout ça, on mettra un lien. Voilà. Continue.
Alors, ça a l'air épais comme un encart d'un vieux Casus Belli.
Oui, bah en fait, oui, le bouquin
comme
fait...
une campagne grand écran.
Oui. Bah, le bouquin fait 24 pages, est au format A4. C'est un petit bouquin qui contient globalement à peu près tout ce qu'il faut avec quelques jolies illustrations. Donc, Puppetland, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un jeu de fantasy, un jeu fantastique où on joue des marionnettes dans un monde étrange qui fut créé par un être mystérieux que l'on nommera l'artisan. C'est un lieu fabuleux avec des petites montagnes, un grand lac de lait et de cookies et dans lequel vivent plein de marionnettes super choupinettes qui sont censées vivre ici une vie parfaite à l'abri de tous les dangers que l'on pourrait imaginer. C'est un monde où l'on croise des marionnettes assez variées, des espèces de petites marionnettes à doigts, des pantins en bois, des ombres chinoises, des marionnettes, on pourrait dire des marionnettes chaussettes, voilà, ça y est.
Il y en a.
Ah mon dieu, me fais attaquer par des marionnettes.
Il faut bien qu'elles servent, on les recycle. Voilà. Ah maintenant elles s'expriment.
Donc comme vous voyez, l'impression que ça vous donne, c'est un monde, c'est un monde façon petit poney, où c'est un monde joyeux, un monde d'amitié, un monde de beauté, un monde de sécurité. Enfin, ça, c'était avant que ce salaud de Polichinelle n'assassine l'artisan pour prendre sa place et dominer le monde. Car voilà, c'est affreux. L'artisan, cette espèce de démiurge qui a créé le monde des marionnettes, a été assassiné par une marionnette mégalo, par sa plus belle création, Polichinelle, donc. Et qui, ensuite, est devenu le tyran de ce monde. Il s'est façonné un masque avec la peau de l'artisan. Il a utilisé sa chair et ses os pour fabriquer des 6 marionnettes qu'il appelle ses gars, qui sont des espèces de Dark Vador au service de Polichinelle. Il a fabriqué une armée de casse-noisettes. des casse-noisettes, les pantins, pas les machins en fer pour casser tes noix.
Ah.
Voilà, tu vois, les casse-noisettes.
En fait, ils ont des bottes avec des bouts pointus.
Exactement, tout à fait. Et en fait, cette sale clique en fait, a pris le contrôle du monde des marionnettes. Et leur impose une loi tyrannique, brutale, totalitaire.
Bon, là, on est dans l'ambiance Mossad, donc.
Voilà, c'est ça.
Où est l'ambiance joviale ?
Ben, on va y arriver. Parce que, globalement, comme dans Star Wars, par exemple, ou dans n'importe quel univers où il y a un sinistre tyran qui opprime le peuple, il y a bien entendu une...
Résistance.
Ouais. Ah, ben, il y en a un qui suit, dis-donc. Les autres ont trop.
La marionnette ne savait pas.
Oui, bah voilà. Elle n'a pas passé assez de temps chez Polichinelle. Et donc voilà, il y a effectivement une résistance, une petite bande de marionnettes qui vivent dans un village aux confins du monde, un village qui s'appelle Répi. Et donc une petite vingtaine de marionnettes qui, sous la direction de l'ex-copine de Polichinelle, vivent reclus, essayent de résister à la... au règne de... C'est super difficile de faire cette chronique tout en se faisant attaquer par des marionnettes.
C'est ton tour, c'est ton bizutage. Voilà. Moi-même, j'ai déjà connu ça.
Et donc, voilà. Le but de la résistance menée par la sympathique Judy, l'ex-copine de Polichinelle, donc, serait de ressusciter l'artisan et de ramener la paix dans le monde des marionnettes et en mettant fin au règne de Polichinelle. Pour ça, pour pouvoir ressusciter un jour l'artisan, elle compte sur la dernière larme de ce vieux monsieur décédé qu'elle conserve précieusement dans un dé à coudre en argent. C'est beau, c'est triste, donc on est dans le Mossad, effectivement.
Il n'y a pas un punch chez Judy ou un truc comme ça?
Ouais, c'est ça. Ah, pardon,
oui, c'est un conte classique.
En fait, c'est c'est thématique punch, avec la Béro Punch.
Punch et... Oui,
c'est pour ça que tu as pris ce geste. Tintin, je t'ai démasqué.
Je suis démasqué, oui, effectivement. J'avais pris la peine de chercher à faire une traduction de Punch, mais oui, dans le bouquin de base en anglais, c'est Punch, et on retombe sur effectivement un spectacle de marionnettes qui s'appelle Punch et Judy, qui est assez glauque comme histoire.
Je crois.
Oui, non, très très glauque.
Mais dans une interview de l'auteur, il montrait qu'il envisageait vraiment son univers comme quelque chose de très sombre, parce qu'on lui posait la question... qui est vraiment le créateur ? Et il répondait, il m'arrive d'imaginer que le créateur, si on sortait de l'univers des marionnettes, on se retrouverait dans un atelier d'un juif en 1941 dans le ghetto de Varsovie.
C'est tout à fait, c'est des choses qui sont évoquées dans le bouquin.
Et voilà, et je crois que c'est dit à la fin dans le bouquin, il y a un entretien, et donc voilà, on peut comprendre que le jeu, il évoque des choses assez joviales, mais enfin, je suis contaminé par les termes.
Ou Mossad voilà, pour le coup.
Mais clairement, le jeu n'est pas pensé comme étant un jeu optimiste et c'est pas fandard, quoi. C'est vraiment très sérieux.
C'est pas un jeu tout sucré, voilà.
C'est un jeu de résistance, ouais, c'est bien particulier. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner.
C'est l'histoire d'un monde d'enfants qui évolue, enfin qui a été corrompu, qui s'est chargé de noirceur. Donc on est sur quelque chose qui effectivement jongle aussi entre des oripeaux joyeux et sucrés, posés sur une histoire beaucoup plus sombre.
Sur un cadavre et
sur un cadavre en décomposition.
Ouais, c'est ça, c'est tout à fait.
Et suis un temps.
Donc qu'est-ce que je peux dire de plus sur le background Pas grand chose de plus, vous imaginez, voilà, régime totalitaire, des marionnettes psychotiques qui martyrisent toute une population avec des règles aussi simples que soyez heureux, c'est un ordre.
Être heureux est un devoir.
Oui, ça, être heureux est un... Voilà, c'est la première règle du règne de Polichinelle, c'est tout le monde est obligé d'être heureux, sinon...
sinon, trois petits points.
Voilà, c'est ça. Bref, et donc, qu'est-ce qu'on joue dans Puppetland? Eh bien, on joue des marionnettes qui ont rejoint le village de Répi et qui cherchent à aider Miss Judy à vaincre Polichinelle et à ressusciter l'artisan. En fait, c'est l'objectif, enfin, c'est un jeu campagne, on va dire. Et à partir du moment où on se lance dans une campagne de Puppetland, l'idée, c'est de raconter des histoires qui tendent vers cette conclusion qui serait la fin du
La victoire, quoi.
La victoire, ou. Ouais. À savoir pourquoi pas une fin
une amélioration,
tragique,
ouais.
Je ne sais pas. C'est assez, ça reste assez, assez ouvert. Il y a vraiment du boulot à faire pour.
Oui, il y a pas dedans, il y a pas de piste, il y a pas
y'a,
de.
Il y a pas, y a pas de fin conçue en fait.
Non, il y a pas de fin conçue. Il y a des idées. Alors, ça fait partie des choses qui sont dans le bouquin, qui sont pas dans la version HTML qu'on trouve sur le site de John Tynes. Mais il y a effectivement quelques pistes, quelques idées. Il y a un peu plus de précision sur comment fonctionne le monde, enfin à quoi ressemble la ville des marionnettes, comment fonctionne le règne de Polichinelle, ce genre de choses. Mais il y a effectivement un certain boulot à faire en équipe pour trouver le bon ton.
La tonalité. Ouais.
Voilà. Mais ensuite, les règles de jeu, le système de jeu sont là aussi pour guider dans cette direction, parce que le système de jeu est assez particulier. On va commencer par la manière dont les personnages sont définis. Je précise, en fait j'aurais dû le dire plus tôt, c'est un système sans jet de dés, c'est un système sans hasard, c'est vraiment un système de narration. c'est intéressant. Rappelons que c'est un jeu qui remonte à 95. On est encore loin de la grande période récente des jeux des story games, des jeux à narration partagée ou tout ça, mais on est déjà dans les prémices de cette époque.
Par beaucoup de points, il fait penser à un jeu dont Com a parlé il y a quelques radio-releases, qui est Sens, enfin, à la fois par les thématiques et par le côté sandé.
Eh bien, peut-être.
Sauf que là, on joue des marionnettes, et dans le sens, on joue justement les gens qui sont les seuls êtres libres de leur univers.
Oui, mais on se rend compte en fait que c'est un petit peu des marionnettes contrôlées par les joueurs. Il y a cette dimension un petit peu qu'on retrouve en fait dans Puppet Land.
Donc, les personnages, en fait, quand vous créez un personnage, vous choisissez le type de marionnette, quel type de marionnette vous allez jouer. Donc, il y en a quatre. Les marionnettes à doigts, les marionnettes à main, les ombres chinoises, donc les petites marionnettes toutes plates, et des pantins, qui eux sont en bois. En fait, chaque type de marionnette apporte un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est des traits. Vous dites, votre marionnette, elle est petite, elle est rapide. Ou votre marionnette, elle n'est pas très rapide. Elle ne sait pas sauter. Elle sait taper très fort. Là, par exemple, c'est un pantin. Une ombre chinoise, on va vous dire, enfin, une marionnette d'ombre chinoise, on va vous dire, parmi ces traits, il y a, quand elle se met de côté, on ne la voit pas. Etc. Et donc, en fait, vous créez votre marionnette.
Ah, c'est vrai que ça, c'est super pratique.
Exactement. Donc, vous créez votre marionnette en choisissant le type, en notant sur votre feuille ce qu'elle sait faire de par son type. Vous rajoutez des actions, des choses qu'elle sait faire qui vont dépendre du personnage que vous voulez jouer. Vous lui trouvez un nom, bien entendu. Et vous faites un joli dessin. Parce qu'il y a une grande case qui ressemble à un puzzle en 16 morceaux, dans laquelle vous allez dessiner votre marionnette en essayant de la faire à l'échelle. Que si vous mettez toutes vos feuilles de personnages les unes à côté des autres, la marionnette à doigts est toute petite à côté du pantin, etc. Cette case a une importance parce qu'en fait, au fur et à mesure où votre marionnette subit des événements très désagréables, vous allez cocher, noircir les cases du puzzle jusqu'au moment où vous l'aurez entièrement noirci et auquel cas votre marionnette, il lui arrive des trucs pas cool. Mais j'y reviendrai un petit peu. Donc voilà, globalement, la feuille de personnage, c'est juste ça. C'est une liste de choses que votre marionnette sait faire ou ne sait pas faire et son look et cette espèce de jauge d'état.
Et ensuite, si j'ai dessiné une toute petite marionnette qui occupe deux cases, j'ai quand même 16 cases de points de vie.
T'as quand même 16 cases, oui.
D'accord.
Ça n'a pas... cette jauge d'état pourrait être tout à fait à part de l'illustration,
d'accord.
En fait. Je pense qu'il y a quand même ce côté un peu tragique d'imaginer
que t'es en train
de noircir.
Ouais, de noircir, parce que je me disais, mais il n'y a pas des îles dans ce jeu-là.
Non.
Genre dessine.
Du tout. En même temps, ça, c'est pas des points de vie que tu perds par paxon au cours d'un combat. C'est vraiment tous les moments où il arrive quelque chose de tragique à ta marionnette. En particulier... tu noircis une case si à un moment tu fais faire à ta marionnette quelque chose qu'elle ne pourrait normalement pas faire.
Plus près du micro, François.
Ou donc finalement, il y a un petit côté aussi gestion du dépassement de l'acte héroïque un peu sacrificiel. Du genre, ma marionnette à doigts, elle est pas forte du tout, mais là, elle va se jeter comme une folle contre le mur pour le casser, se taper dessus jusqu'à ce que le mur cède. Mais en fait, elle s'est quand même super fait mal en le faisant. Voilà. Et donc, avec tout ça, on va faire des parties de jeux de rôle. Une partie, ils appellent ça un conte, et ça obéit à un certain nombre de règles super importantes. En fait, le jeu est rythmé par trois règles. La première règle dit « L'heure est la règle d'or, mais ce n'est pas une heure.
Oui. »
Ce signifie qu'une partie, un conte, dure une heure très précisément autour de la table. C'est une durée à la fois en jeu et méta-jeu. La partie dure une heure. Au bout d'une heure, la partie s'arrête, les marionnettes
D'accord.
s'endorment et se réveilleront au début de la partie suivante dans leur lit. Cependant, les marionnettes sont conscientes de cet écoulement du temps, mais leurs actions peuvent durer plus longtemps d'un point de vue subjectif. Dans la durée d'une heure de la partie, il peut très bien y avoir un moment, une ellipse, où on va dire les marionnettes traversèrent la moitié de Puppet Land pour se rendre à la caverne des objets en sucre, par exemple.
Mais du coup, c'est un temps qui ne compte pas.
Mais c'est un temps qui compte pour le temps que j'ai pris à le dire.
Oui, voilà, c'est du temps fictionnel.
C'est du temps fictionnel.
C'est bon, ça.
Si on faisait pas ça, ça deviendrait 24 heures chrono chez les marionnettes. Ça serait quand même un petit peu limité.
Voilà, exactement. Qui veut mettre sa main dans Jacques Bauer ?
Il y a le temps des joueurs, le temps de la représentation et le temps de l'histoire qui, lui, n'est pas limité à une heure.
Voilà, mais ouais. Le temps de la représentation, c'est le temps des joueurs. Et les marionnettes ont finalement une certaine conscience de ce temps, vu qu'elles savent que lorsque le conte se termine, elles vont s'endormir pour se réveiller dans leur lit bien au chaud au début du conte suivant.
Et sans main à l'intérieur.
Et sans... Bah, il n'y a pas de main, en fait.
Pas toutes.
Des... Non, ce sont des marionnettes qui vivent sans main dedans. Vu que,
ah là là.
Elles sont douées d'une propre... de leur propre existence. Bref. Donc ça, c'est la première règle. Elle rythme la manière dont se déroule la partie et elle pose certains jalons. La deuxième règle dit... Enfin, la deuxième règle est... Tu dis ce que tu dis. J'ai essayé de traduire par rapport au bouquin, c'est peut-être un peu foireux. Mais bref. Ça pose...
Oui, c'est joueur et PJ confondus.
Ça pose un truc tout simple. Quand tu parles, tu dis ce que ta marionnette dit. À aucun moment, tu ne fais de... Tu ne... Enfin, pardon. La règle dit, si à un moment, tu dois exprimer des choses qui ne sont pas dites par la marionnette, tu te lèves, et en fait, tu te mets dans une position hors-jeu. Mais en fait... Tu
position
ne...
de narrateur pour décrire le décor, etc.
Non, non justement. Mmh. À partir du moment, enfin, c'est pour les joueurs, c'est pas pour le meneur. Mais il faut partir du principe qu'en fait, que tu racontes, globalement, il faut que ce que tu racontes, ce qui est verbalisé, puisse être limite transcrit directement dans un bouquin.
Par défaut, tu peux pas dire, bon, bah, j'essaye de le convaincre de me laisser passer. Il faut que tu parles, et puis, si pour une raison X ou Y, c'est pas possible, bah, tu te lèves et tu dis, bah, voilà.
Tu te lèveras plutôt pour dire, quelqu'un veut des chips, en fait.
Exactement. Non, mais c'est ça. D'accord. Globalement, en fait, chaque fois que tu décris. Chaque fois que tu veux décrire ce que fait ta marionnette, il faut que tu t'imagines avec ta marionnette en train d'expliquer ce qu'elle est en train de faire.
Que tu la fasses agir, en fait.
Non, elle raconte ce qu'elle dit.
Oui.
Elle dit ce qu'elle fait.
Ah, et bien, puisque c'est ça, je vais machin
exactement.
Et tout ça.
Oh là là, il y a sûrement un caillou par terre que je pourrais ramasser
ah, mais
pour
en
lui
fait,
lancer au visage.
Mais dites-moi, les enfants, où est le gendarme ?
Oui, mais c'est ça. Mais
en fait, c'est comme un Blake et Mortimer, tu sais, tu as le sous-texte
bon.
Qui, le sous-texte qui raconte ce qui est décrit dans la, ouais. dans la case.
Mortimer se retourne.
Et donc, à aucun moment. À aucun
et soudain,
moment,
il surgit.
À aucun moment le joueur, en fait le meneur, le puppet master a un peu cette position de narrateur, mais vraiment de narration, comme de narration.
Regarde plus ton micro.
Oui, c'est vrai.
On vous a dit, arrêtez de me parler, quoi. Arrêtez de me regarder quand vous.
Mais c'est,
faites comme si je n'étais pas là.
Tu es tellement rayonnant.
C'est la sueur du punch qui ruisselle sur mon front.
Non,
qui
non,
reflète.
C'est le cobalt qui pisse par la fenêtre.
Ça chasse les lacrymos.
Donc voilà. Donc comme je disais, c'est ça, on ne s'adresse pas au Puppet Master directement, on le fait par le biais de phrases prononcées par les marionnettes. Donc on se retrouve d'une certaine manière à penser tout haut. Et les seuls moments en fait, où il peut y avoir une interaction haute, c'est si le Puppet Master, donc le maître de jeu, pose une question à un joueur, il faut qu'il lui pose la question sur un mode réponse oui-non, et le joueur va répondre par un hochement de tête. Mais donc, il y a aussi, on essaye de cadrer. Oui, c'est un peu. J'ai pas eu l'occasion de le tester, donc ça fait partie des
et
choses.
Mais en fait, je me dis, je jouerais bien ça avec mes marionnettes à moi, là.
Oui, bien sûr.
Et en les jouant vraiment, parce que voilà.
Je te propose un hangout de marre. Chacun fabrique sa marionnette, en nombre, en machin. Ouais, mais c'est vrai que ça pourrait être.
Mais voilà. Donc, en fait, l'idée qu'il faut se dire, c'est ça, il faut jouer comme si l'histoire.
Non, il faut jouer en live avec ça.
Était racontée à quelqu'un, et que, ben, comme dans une limite, un livre ou un conte pour enfants. Tout ce que font les marionnettes, elles le racontent, quoi. Elles disent ce qu'elles font. Ça met des... Il y a quelques exemples dans le bouquin. Ça pose une ambiance, à mon avis, un peu particulière.
Ça pourrait être sympa, le concept de hangout, où t'as la personne qui joue les marionnettes devant son écran, et puis c'est un de ses camarades qui raconte ce qu'elle fait.
Ah, c'est un petit côté Pictionary, là, voilà. Après. Ah, je crois qu'elle monte sur le meuble. Pourquoi faire ?
Table guettée, toute verte.
Donc, la troisième règle dit « Le conte est construit par la parole et c'est à quelqu'un qui n'est pas là que l'on va le narrer. » C'est-à-dire, là, c'est le côté... Comment dire ? En fait, c'est une extension de ce que je disais avant. On
oui,
crée
on
l'histoire
continue de raconter comme si on la racontait.
Voilà. Et c'est pour ça. Le meneur, lui, va utiliser le passé, va vraiment se positionner comme un conteur.
Et en même temps, tu poses ton portable avec Siri qui est chargé d'enregistrer tout ce que tu racontes et d'en faire
alors,
un conte.
Pour le conte, le côté narration au passé, je me dis que ça passe peut-être mieux en anglais qu'en français. En français, je ne sais pas. Ensuite,
faire de la narration au passé quand tu joues.
Ouais. Oui, c'est le meneur.
Le meneur
de
jeu, il raconte ça comme si c'était une histoire
passé.
Qui s'était passée. Comme si, il était une fois.
Voilà, il était une fois dans la petite ville de Répi, une bande de marionnettes qui avait décidé d'aller.
Et péter sa gueule à Polichinelle.
Ah oui,
d'aller,
et après.
Tendre un piège,
et soudain, ils surgirent dans
voilà.
le machin. Ouais, c'est. Ouais, je pense que c'est un coup de main à prendre en fait.
Oui.
En fait
là, du coup, la marionnette, elle a dit quoi ? Une fois qu'ils ont surgi du bois, la marionnette, qu'est-ce qu'elle dit ? Prends votre marionnette. Qu'est-ce que dit ma marionnette ?
Ah, maintenant que nous sommes arrivés sur place, et je vais, nous allons chercher des traces, les traces de pas des de ces méchants,
de ces marionnettes à main qui n'ont pas de pied.
Voilà. Mais Le meneur pose la chose par une narration de conte, par une narration au passé, et les joueurs abondent par de la narration au présent et à la première personne. À mon avis, il y a un peu de...
Oui, il y a un petit coup à prendre.
En fait, pour avoir testé ça marche plutôt bien, puisque au final, le même joueur parle toujours au même temps.
Oui, ça parle.
Donc au final, il y a bien une séparation entre le MJ et les marionnettes, et ça pose vraiment aucun souci, c'est très fluide.
Ok, très bien.
Donc c'est assez spécial. Ensuite, on est dans une narration, enfin, on est dans un jeu où typiquement, on est exclusivement dans de la conversation. Parce que finalement, tu décris ce que tu fais en fonction de ce que ta marionnette est capable de faire. Et à mon avis, si tu débordes ou si tu fais des choses qui sont trop difficiles, c'est la narration, c'est le meneur, c'est le puppet master par le biais de sa narration qui va recadrer les choses ou te faire subir les conséquences. N'ayant pas eu l'occasion de le jouer, on dit qu'il y a effectivement une phase de prise en main ou d'expérimentation pour réussir à rentrer dedans. Mais c'est assez tentant.
En fait, c'est le fait de jouer sans dés, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec des dés, mais de la même façon que des gens jouent sans dés, à savoir des tables où le gros du récit repose sur les décisions du MJ et au final, il utilise les dés comme simple outil d'aide à la décision. Enfin, moi j'ai déjà joué comme ça et je pense que ça fonctionne assez bien. Mais
si
c'est bien conçu, mais c'est le type de table où jouer avec des dés ou jouer sans dés, ça ne change pas grand chose. Et moi j'étais vraiment dans cette optique, le MJ un peu tout puissant au moment où j'ai testé Puppet Master, ça fait déjà très très longtemps, et j'avais pas senti une révolution à me passer de dés. En fait, ça c'était parfaitement naturel.
Non, tout à fait. Moi, je connaissais déjà Ambre avant de tomber sur Puppet Land. Et Ambre était plus cadré. Il y avait un peu plus de règles. On était dans quelque chose qui ressemblait plus à un jeu de rôle traditionnel. Juste avec ce côté, on s'affranchit des dés en disant, mais non, de toute façon, on sait bien qu'on peut faire sans. Et que finalement, si ton personnage est le plus fort, ben, ça sert à rien de jeter un dé pour savoir s'il éclate son adversaire au bras de fer.
Alors moi, j'ai pas toujours été un fan de jeux extrêmement bizarres, et à l'époque, je jouais surtout à des jeux traditionnels. Et comme je le dis, je sentais pas quelque chose de vraiment de si étrange que ça dans Puppet Master. Finalement, c'est plus le monde très particulier qui m'avait parlé à l'époque que le système de règles qui se rapprochait finalement de ma pratique du jeu de rôle.
Bah, ensuite, le système de règles, ce qu'il y a de particulier, ce sont les trois règles qu'on a énoncées, qui finalement sont, pour le compte, les points de règles essentiels. Parce que c'est eux qui vont poser une ambiance très particulière autour de la table.
Ouais.
Donc ensuite, voilà. Ça, c'est tout ce que je viens de décrire, c'est ce que l'on trouve en ligne. Dans le bouquin, il y a toute une partie qui n'existe pas dans la version HTML trouvable sur le site de John Tine, qui, comme je disais plus tôt, décrit le monde un peu plus précisément, donne plus d'idées sur la manière dont est construit l'univers, et donc par extension, ça donne des pistes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En termes de, il n'y a pas de truc.
Et l'univers décrit, il est cool, il apporte des éléments sympas.
Oui, ça t'explique un peu comment fonctionne le monde de marionnettes. Mm-hmm. Vu qu'on l'a évoqué, ça te donne plus d'idées sur le fait que ça soit une espèce de lieu fabriqué par quelqu'un dans un sous-sol. Donc tu vois une espèce d'équilibre entre le côté fantastique et magique du lieu et sa sinistre réalité.
Moi, j'imagine des piles de boîtes à chaussures évidées.
À mon avis, c'est une façon. Chaque meneur va pouvoir se l'approprier à sa façon. Ça peut
dans une vieille cave toute moisie. Et tout.
Ça, tu peux le faire comme ça. Dans la manière dont c'est décrit dans le bouquin, non, c'est. Imagine un gars qui aurait construit un très grand diorama aurait fait une table avec un petit train électrique dessus. C'est ça, c'est vraiment un décor très bien fait avec une grande toile autour qui représente le ciel et qui, du temps où l'artisan était en vie, bougeait au fil des heures, passait du jour à la nuit, mais maintenant c'est bloqué. C'est un décor très construit. L'artisan n'est pas un amateur, c'est vraiment, faut imaginer une espèce d'artisan magicien qui a été capable de construire un monde très très réussi. est très magique pour le compte. Il y a quand même un lac, comme je disais, il y a un lac de lait et de cookies à un endroit. et des choses comme ça.
Et, un truc sympa, quoi.
C'est mais ensuite, en termes de jeu, les pistes que donne le
bouquin... Enfin, de lait et de cookies, le lait, c'est de la peinture peinte en blanc. Enfin, plutôt, c'est une surface peinte en blanc et les cookies, c'est fait en... C'est
des, avec des crottes de rat.
Non, c'est du lait et des cookies. C'est magique, on te dit. Arrête de
non mais, de revenir. D'accord. C'est, parce que pas, en fait magique. j'ai du mal à distinguer l'espèce de monde construit
Le ghetto de Varsovie.
Celui des marionnettes qui lui effectivement est magique.
Mais le monde tel qu'il c'est est construit, le monde des marionnettes, c'est le monde construit, le monde magique a cette espèce d'aspect super mignon. D'accord. Même s'il a été corrompu par la folie de Polichinelle.
D'accord.
Mais
ça me fait penser en fait à une BD dont le nom m'échappe en fait, qui est tout en ton sépia et où ce sont les jouets en fait d'un enfant qui vont essayer d'aller récupérer parce que un espèce de vilain jouet a kidnappé en fait leur maître, l'enfant, et donc ils vont aller dans le monde fantastique. C'est un peu le monde du placard dans lequel ils vont trouver tout, les jeux de société, les vieux jouets abandonnés, etc. Et le héros c'est genre un polichinelle de combat, un cochon tire-lire, qui va essayer de tirer son épingle du jeu, enfin, c'est juste comme ça, le sad, retrouver le nom. Et c'est vrai que je me dis, ça pourrait tout à fait coller avec ça. Bon, bien que là, du coup, la quête soit moins d'une résistance que celle aussi d'une découverte de différentes peuplades qu'on va trouver dans l'univers du placard, quoi.
Là, la manière, avec les infos qu'il y a dans le bouquin, en particulier la description de polichinelle et de ses cigas, chacun ayant vraiment une thématique très différente, mais toujours lié à des sentiments.
Par le micro.
lié à des sentiments très négatifs, très lourds. Chacun des gars a vraiment son propre rôle. Et en fait, c'est surtout ces éléments-là qui vont servir à structurer une campagne, parce que l'idée, c'est pas forcément de faire une campagne qui va durer des années, mais plutôt de poser l'ambiance, de confronter les personnages à l'oppression de Polichinelle, et ensuite de voir comment ils vont vouloir essayer de résoudre la solution, comment ils vont vouloir essayer
de résoudre la solution.
Résoudre la situation, j'ai dit.
Ah bon ?
Oui, David, tu as bu.
Ah, d'accord, c'est OK.
Non, mais j'ai mal entendu aussi.
Vous avez
mais j'ai bu aussi. Non, c'est vrai que l'argument se tient.
Je fais le montage et donc je saurai la vérité.
Ou je la modifierai.
Moi ! Non, pardon, continue.
Oui, non, mais ça va. Et globalement, comme chacun des gars, par exemple, a une description assez courte, mais assez évocatrice de son rôle et des saloperies qu'il est capable de faire, ça donne des pistes pour faire des parties. À mon sens, il faut faire des parties qui vont vraiment à chaque fois faire avancer la.
Ouais, je crois qu'il faut passer drastiquement. Ouais, faut que tu shootes un boss ou que tu fasses quelque chose pour que ça se tienne un peu.
Protéger des gens, protéger Répi contre les casse-noisettes ou trouver le moyen de piéger et de vaincre un dégât jusqu'au moment où tu vas passer au stage final qui est s'introduire dans le château de Polichinelle, découvrir où se trouve le corps de l'artisan. Le ressusciter si c'est possible, ou peut-être réussir à convaincre Polichinelle de redevenir sympa. C'est ouvert. Pour le compte, c'est assez ouvert et je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre les idées des joueurs et aller dans la direction qui est plus
des schéma. Ça me rappelle du coup le schéma qu'on avait dans Blitzstage dont on avait parlé, en fait, qui permettait de dire vous avez eu une réussite sur une défense, vous pouvez reprendre un peu l'avantage et tenter une exploration du domaine de l'ennemi, ou des choses comme ça. C'est vrai que je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à un schéma pour arriver à structurer les choses et à faire une avancée réelle dans un jeu de résistance. Bon, là, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est vrai que c'est le genre de jeu que j'ai, moi, quand j'en les ai eu dans les mains, des jeux de résistance, je pense à Dark Harvest, qui était un truc un petit peu ambiance pays de l'Est, Frankenstein et dirigeant du pays modifié génétiquement, etc. Une espèce
charmant.
De...
Ah oui, ouais. ça a l'air chantant comme truc.
Oui, hein. C'est ça. Oui. En gros, c'est un peu une espèce d'opposition en fait, entre Frankenstein et sa créature. Et du coup, oui, c'est ça,
c'est
très,
un peu
très
comme
en
lien. C'est quoi tu sais, le jeu avec les relations entre la créature.
My Master.
My Life with
My
Master.
With
Master, tout court.
Ouais. Je vais en profiter pour rajouter quelque chose, même si ce Radio Release sera en ligne trop tard pour ça. Le bundle of holding du moment.
Pas de chance.
Voilà, le bundle of holding.
Vous venez de louper.
Ah la vache. Oui, voilà, c'est raté. le bundle unfolding du moment qui est consacré au jeu indé et qui contient entre autres donc My Life with Master.
Il y a Breaking Vias, il y a plein de
voilà, Troll Babe, etc.
Polaris, que j'ai commencé
ouais,
à
Polaris, mais en fait, il n'y a que des jeux que j'ai déjà.
C'est ça, et moi, t'en as la moitié, donc en fait, ouais, tu te dis, ouais, en fait, c'est plus une si bonne affaire que ça.
Bah, moi, j'en avais aucun pour le compte, à part Puppet Land qu'ils ont rajouté là. Mais à part Puppet Land, j'en avais aucun, donc ça a été. Oh, j'étais trop content. Mais donc voilà, au moment où vous écoutez ah oui, ces lignes. Le...
C'est un équivalent voilà. Du porn pour les ceux qui aiment bien les jeux de rôle indés.
Mais donc voilà, au moment où vous entendez ce Radio Rollist, en fait, le bundle of holding en question est déjà terminé. Alors Puppet Land, vous pouvez le trouver en ligne sur le site de l'auteur, même s'il n'y a pas tout ce que j'ai décrit là.
Je vois Cyril qui... Qu'est-ce qu'il y a ?
Qu'est-ce qu'il fait, Cyril ?
Mais tu te moques des auditeurs, tu leur parles d'opportunités commerciales qui sont sûres de louper.
Ouais, on leur a déjà parlé du Bungling, comme ça je l'ai bien prononcé.
Oui, voilà. Mais non, mais de toute façon, on sait qu'il n'est pas matériellement possible que ce soit exactement en même temps que... Voilà. Voilà. Donc,
mais de toute façon, si ça vous intéresse, il y a une bonne partie du jeu qui est dispo en ligne. Je suis allé regarder sur des sites de vente, genre un site qui porte un nom d'héroïne mythologique, et on trouve des exemplaires du Puppet Land dans... Voilà.
C'est pas Amazon.
Non. On trouve des exemplaires de...
C'est pas Lulu.
De Puppet Land. Lulu la dentelle, bah ouais, t'as connu.
Tout à fait, voilà, bah c'était une
héroïne. Les volets rouges.
Donc voilà, sur Amazon, on trouve des exemplaires de Puppet Land, mais pour 24 pages, on les trouve à honteusement 25-35 euros. Donc là,
non.
Ouais, non, franchement, non, mettez pas 35 euros, à moins que vous soyez vraiment un collectionneur forcené, quoi. Mais voilà, je suis content qu'il ait été dispo, qu'il soit quand même un peu dispo en ligne, parce que voilà, ça m'évite de vous parler d'un jeu qu'on peut plus trouver. Ça ferait des ordres.
Moi, tu me fais redécouvrir le jeu parce que je l'avais testé avec tout ce qui est gratuitement disponible en ligne et j'avais trouvé ça évocateur et bien, mais ça faisait un peu kit de démo. Il manquait quelque chose, on sentait, et donc j'ai hâte de lire le PDF.
Ce petit bout d'univers, peut-être. Ouais.
Mine de rien, c'est des pages qui sont très denses dans le bouquin, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 5 pages en plus. Mais c'est au A4, c'est écrit un peu petit, et ça contient quand même pas mal de petits éléments. Alors ensuite, un meneur expérimenté peut aussi partir des éléments de base qui sont très évocateurs, se construire sa version de cet univers.
Je crois que c'était Little Fear aussi qui avait un univers un petit peu comme ça, avec différents espèces de gros monstres, quoi, de gros boss dans son univers. Mais c'était des ch'tites enfants qui allaient dans le monde imaginaire, quoi.
Alors je suis en train de le confondre avec un autre. Je suis en train de le confondre avec Monsters and Other Childish Things. Si je me souviens bien.
C'est ça. Du coup, c'est encore autre chose. Ouais. Ouais, je l'ai pas ce dernier.
Ben, je l'ai. J'avais commencé à lire et j'avais eu ce côté. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. J'avais eu un côté très waouh.
C'est qui
bien
a fait Monsters ? C'est Vajra Games ?
Je sais plus.
Un jour, il faudrait qu'on parle de ces gens-là qui font des choses étranges.
Oui, tout à fait. Donc, enfin voilà, j'ai à peu près fait le tour, je pense. Vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais ne pas répondre ?
Et il arrêta de parler au micro.
Voilà.
Sur ses derniers mots.
Et sur ses derniers mots, il arrêta sa chronique.
On a bien compris comment ça marchait.
Non, merci. Écoute, c'était très cool, François.
Ben de rien. Et la prochaine fois, on parlera d'un truc plus récent.
Non, mais
tellement récent qu'il n'est pas sorti.
Non, mais tu ne fais pas de chronique très souvent. Et il est vrai que les conditions sont assez difficiles car il fait extrêmement chaud.
Et j'ai beaucoup bu.
Et il a beaucoup bu. Enfin,
c'est le drame de passer en dernier, c'est que pendant que les autres parlent, tu bois.
C'est ça.
Et après,
en plus, t'as le trac et tout.
Donc,
et
voilà.
Bien, mais oui, voilà. Merci beaucoup. Et puis, maintenant, c'est terminé.